Audiolib présente L'architecte romaine de Melania Gaia Mazzucco, traduit de l'italien par Vincent Reynaud, lu par Catherine Creux. À Andreina, étudiante en architecture dans les années 50, qui a quitté l'université en découvrant que les femmes architectes étaient plus rares que l'ibonite, puis s'est mariée et a eu deux filles, dont moi, la seconde. La gloire d'une femme consiste à ne faire point parler d'elle. Hortense Mancini, duchesse de Mazarin. Io, Plautilla Briccia, architettrice, ho fatto gli suddetti capitoli mano propria. Moi, Plautilla Briccia, architecte, ai rédigé de ma main les chapitres qui suivent. Prologue. La baleine. La chose était couleur gris poussière et courbée comme une cornue d'alchimiste. Elle était ventrue à la base, puis se resserrait vers le haut. Elle ne mesurait pas plus d'une demi-paume et était apparue du jour au lendemain sur le pupitre de mon père, posée sur une liasse de pages couverte de son écriture fiévreuse. J'avais d'abord cru que c'était un presse-papier, un éclat de sculpture antique. Du reste, malgré les protestations tapageuses de ma mère, depuis quelque temps, mon père s'était mis à rassembler toutes sortes de vestiges fabriqués par les hommes, la nature ou le hasard. Il les exhumait, les échangeait avec d'autres chasseurs de trésors et parfois il les achetait, si bien que son petit bureau ressemblait davantage à une boutique de brocanteur qu'à l'atelier d'un peintre. Il conservait dans de petites boîtes en bois de poirier des fragments d'os de martyrs, des orteils de divinités mortes et des calculs rénaux récupérés par son beau-frère dans les pots de chambre de ses patients. Il les empilait sur ses étagères, parmi les livres esquintés en hébreu et en latin, les planches anatomiques de cadavres disséqués et même, soigneusement scellés dans une boule de cristal, des poils d'Itzkinte Portzotli et de Xoloitzcuintli, c'est-à-dire de chiens et de loups mexicains. Cette pièce toujours mal éclairée, qui sentait la colle, le bois brûlé et le vieux papier, m'attirait aussi irrésistiblement qu'un aimant attire un morceau de fer. Mon père exigeait de ne pas être dérangé, mais il ne s'enfermait jamais à clé, peut-être parce qu'au fond, cela l'amusait de me voir fouiller dans ses merveilles. Ma sœur Albina ne s'intéressait absolument pas à ses dessins et à ses fleurs séchées. Et c'est à peine s'il levait la tête, lui, de la page. Il posait un doigt sur ses lèvres et m'ordonnait de me taire, trempait la plume dans l'encrier et oubliait ma présence. Perché sur le tabouret, les pieds moulinant dans le vide, je le regardais écrire, écrire et écrire encore. Allez savoir quoi. À l'époque, je savais tout juste épeler et je ne comprenais pas pourquoi un peintre devait si souvent utiliser une plume. Pourtant, cette chose n'était ni un morceau de sculpture, ni une pierre. Elle dégageait une odeur pénétrante de mer et de pourriture, comme si elle avait été, et était encore en partie, une chose vivante. On était en février. Avec le froid, il fallait garder les contrevents fermés, et la puanteur devint rapidement si forte qu'on avait l'estomac retourné. Le premier jour, dégoûté, ma mère ordonna à mon père de faire disparaître immédiatement cette abomination. Il la foudroya d'un regard condescendant. « Tais-toi, stupide femme. Tu ne sais pas de quoi tu parles.